8h45, c'est le point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. En Argentine, une première victoire au Parlement pour Javier Milei. Il est enfin parvenu à faire voter une loi dérégulatrice qui lui octroie par ailleurs des pouvoirs supplémentaires. Et puis le dossier de ce 8h45 nous emmènera en Ukraine. Le pays est mal préparé à l'augmentation des soldats invalides de guerre. Plus de 265 rassemblements et défilés prévus aujourd'hui 1er mai par les syndicats, soit la fourchette haute, selon la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzelletti. Mais contrairement à l'an dernier où les 8 principaux syndicats avaient défilé ensemble contre la réforme des retraites, il n'y a pas de mot d'ordre national interprofessionnel cette année. Plusieurs revendications, en revanche, contre l'austérité, pour l'emploi et les salaires ou encore pour la paix à Gaza. Et puis la CGT des éboueurs de Paris a profité de ce 1er mai pour déposer un préavis de grève, couvrant notamment l'intégralité de la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Dans un communiqué, le syndicat des éboueurs franciliens appelle les agents de la direction de la propreté et de l'eau et des transports automobiles municipaux à les suivre une partie du mois de mai et tout l'été. Ils réclament notamment une prime exceptionnelle de 1 900 € pour les agents sollicités lors des Jeux et publient toute une liste de revendications. En Argentine, c'est une première victoire législative pour le président ultralibéral d'extrême droite Javier Milei. Après 29 heures de débat, les députés argentins ont approuvé hier soir sa loi de dérégulation de l'économie. Un texte qui prévoit notamment une réforme du travail, la privatisation d'une dizaine d'entreprises publiques ou encore des facultés exceptionnelles données au président. En 4 mois de gouvernement et sans majorité au Congrès, c'est la première fois que Milei réussit à faire passer un projet de loi, certes édulcoré par rapport à la version initiale. Les précisions depuis Buenos Aires de Caroline Vic.
Débattu en janvier, rejeté en février par le Congrès, puis réécrit et corrigé, le projet de loi est passé de 665 articles à 232. Et les équipes de Milei ont aussi cette fois changé de stratégie. Au lieu de se mettre à dos les députés récalcitrants, ils ont privilégié le dialogue. L'Assemblée a donc approuvé différentes mesures de dérégulation, telles que la privatisation de 11 entreprises publiques, dont la compagnie aérienne argentine, la télévision et la radio publique. Des facultés extraordinaires seront aussi données pendant un an à Milei, qui ne sera pas obligé de passer par le Congrès dans les domaines administratifs, financiers et énergétiques. Une réforme du travail qui prévoit notamment l'extension des périodes d'essai à 6 mois ou encore la flexibilisation des contrats avec moins de CDI et plus de collaborateurs indépendants. Enfin, la libre exportation et exploitation d'hydrocarbures et la non-intervention de l'État dans le prix de commercialisation sur le marché argentin. À gauche, on crie à la perte de la souveraineté nationale. À droite, on applaudit ces mesures. Sur les réseaux sociaux, Milei s'est d'ailleurs félicité, je cite, de ce premier pas fondamental pour sortir les Argentins du marécage. Le président, jusque-là considéré comme capricieux et impulsif, sort grandi de ce vote à l'Assemblée. Une première victoire donc pour le gouvernement, mais tout n'est pas gagné. Reste encore le vote au Sénat, prévu au cours du mois de mai.
Vous en parliez il y a quelques minutes, Guillaume, l'auteur de Léviathan et de la trilogie new-yorkaise, l'américain Paul Auster est mort à l'âge de 77 ans à Brooklyn, quartier de New York où il a longtemps vécu. Paul Auster est décédé de complications d'un cancer du poumon après être devenu une icône littéraire de New York, auteur de plus d'une trentaine de livres traduits dans plus de 40 langues. Ses romans explorent entre autres le hasard et les coïncidences. Scénariste, essayiste, poète, il avait vécu plusieurs années à Paris avant de pouvoir vivre de ses livres. Paul Auster avait étudié à Columbia, la prestigieuse université de New York devenue ces dernières semaines l'épicentre de la contestation contre la guerre à Gaza. Le campus de l'université a été évacué dans la soirée d'hier, sa présidente jugeant qu'elle n'avait plus le choix, je cite, que de faire appel à la police suite à l'occupation d'un des bâtiments. Des étudiants exigeaient notamment de leur université qu'elle rompe ses liens économiques avec Israël. Ils ont été délogés.
Suite 8h45 d'Anne-Laure Chouin avec un reportage qui nous emmène en Ukraine où les combats s'éternisent.
Oui, des combats qui provoquent des blessures à vie, morales autant que physiques. Et de fait, dans le pays, on croise partout dans les rues d'anciens soldats amputés ou portant des prothèses ou bien se déplaçant en fauteuil roulant. Mais l'Ukraine est-elle prête à faire face à un si grand nombre d'handicapés de guerre? Pas sûr, comme en témoigne ce reportage dans la région de Kiev d'Agathe Mahué et Yachar Fazilov.
Oleksandr Popik a toujours ses deux jambes, mais elles ne répondent plus depuis un an et demi. Dans son fauteuil roulant, chez lui, il raconte son arrivée à Bakhmout dès le début de la guerre. En octobre 2022, en plein assaut, il est atteint par le tir d'un char.
Ça m'a fait un trou de 17 cm dans la colonne vertébrale. La moelle épinière est touchée.
Prise en charge à Dnipro, puis à Kiev et jusqu'en Pologne, le diagnostic est clair.
On m'a dit que je ne marcherai plus jamais.
Sim. Oleksandr soudain se tord de douleur en silence. Il enfonce très fort sa main dans sa cuisse. La souffrance lui déforme le visage. C'est normal, dit-il.
C'est
tout le temps comme ça.
J'ai des spasmes, des crampes en permanence, tous les jours depuis un an et demi. Je ne dors plus jamais correctement, ni la nuit, ni le jour, malgré les somnifères.
Des médicaments, il en prend plein, mais ce qui l'aide vraiment, c'est la moto.
Ma femme me scotche les jambes sur la moto et c'est parti, je fonce.
Pour calmer ses souffrances, il lui faudrait un neurostimulateur, mais cela coûte 17 000 euros.
Et l'État s'en fout, je dois trouver cette somme moi-même.
Oleksandr bataille déjà pour toucher sa pension d'invalidité et réaménager sa maison. Une rampe d'accès pour son fauteuil. La salle de bain, c'est son épouse et ses amis qui l'ont refaite. Supprimer le bac de douche, surélever le lavabo.
On a payé tout ça de notre poche. L'État, quand tu es au front, a besoin de toi. Mais si tu en sors handicapé, plus personne ne s'occupe de toi.
Des soldats en fauteuil comme lui, il en connaît beaucoup. Pour lui, l'Ukraine n'est pas prête face à ce défi-là. Mais si c'était à refaire, il y retournerait. Sa femme, Katia, dit qu'elle ne le laisserait pas repartir.
C'est assez comme ça. Il a déjà trop souffert.
Oleksandr, pourtant, insiste. Sa place est au front. Mettez-moi des chenilles sur mon fauteuil, dit-il, et je repars à l'assaut.
Agathe Mahué avec Yachar Fazilov. Le temps de ce 1er mai en France, généralement pluvieux et orageux. 14 départements de l'Île-de-France, de la Bourgogne et du Centre-Est seront placés ce soir en vigilance orange aux orages. Les températures 13 à 25 degrés au plus chaud.